Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Dans le cadre de la 23e édition du festival Contes d'automne proposé par les médiathèques départementales de l'Oise, je me suis rendu le dimanche 5 novembre à la salle Soupissot dans la commune de Saint-Sauveur, près de Compiègne dans l'Oise. Céline Ripoll contait la légende du cocotier et autres contes de Tahiti. Céline, bonjour.
Yaorana, bonjour.
Première question, ça s'est passé comment cet après-midi à Saint-Sauveur ?
Ah bah, vous l'avez entendu, c'était absolument extraordinaire. Une salle pleine, archi-pleine. Beaucoup de gens s'étaient déplacés, une bonne humeur. Des gens, je sentais sur scène la bienveillance de tout le public. Un vrai régal.
Alors on va un petit peu faire connaissance avec vous. L'histoire commence en 2002. Vous avez entendu un conte qui racontait une histoire du Pacifique et vous vous êtes dit, moi aussi, je veux devenir conteuse.
Oui, enfin, je commençais à raconter des contes, mais je ne savais pas quoi raconter. Je voulais une histoire forte et ce que je lisais dans les ouvrages ne convenait pas. Et puis, je vais dans une rencontre de conteurs et dans la rencontre des conteurs, il y a une femme qui raconte une histoire. Et je me dis, voilà, ça c'est cette histoire-là que je veux raconter. Et je lui demande si elle veut bien me passer la photocopie du texte. Et elle me dit que non. Parce qu'il existe la charte des conteurs, et quand un conteur a une histoire, on lui laisse son répertoire, etc. Sauf que cette dame n'a jamais raconté cette histoire. Et moi, je me suis mise en tête d'aller chercher cette histoire. Donc, je suis partie dans le Pacifique, plusieurs années après, en 2005.
2005, ouais.
Voilà, et je pars dans le Pacifique, d'île en île, chercher cette légende. Tahiti, les îles de la Société, les îles Marquises. Puis en 2007, j'irai jusqu'à l'île de Pâques chercher cette légende. Voilà comment l'histoire avec le Pacifique a commencé.
Avec toute cette tradition orale.
Exact. Les gens étaient très étonnés de voir une jeune fille arriver seule. Ils me demandaient « qu'est-ce que tu fais là ?» Et je disais « je cherche une légende, je cherche la légende de Nikorima, le guerrier au visage à moitié tatoué. » Ils m'ont dit « ah, on ne connaît pas, mais viens, on va voir les vieux. » Et ils m'emmenaient voir les vieux, et les vieux étaient entre gênés et honorés d'avoir une personne qui venait connaître. Et donc, parfois avec certains, j'avais 2, 3, 4 rendez-vous, et ils se mettaient à raconter. Et j'ai reçu, pendant ce premier voyage, et après je vais faire 5 voyages sur la Polynésie française, je reçois effectivement une initiation parce qu'on me donne des morceaux d'histoire. Puis au voyage suivant, on me complète l'histoire. Puis au troisième voyage, on va me donner les noms qui sont des clés pour comprendre l'histoire, etc. C'est absolument extraordinaire, effectivement. Partant sur l'île de Pâques, je vais être immergée dans une vie où tout n'est que danse, visible et invisible. Et c'est comme ça que je me mets à vivre même les histoires.
Alors, entre-temps, vous avez travaillé pendant 13 ans au musée du Quai Branly à Paris, de 2006 à 2019.
Exact.
Quelle était votre mission là-bas ?
Alors, je rentre en 2005 de mon premier voyage et puis des gens du musée du Quai Branly, mais c'est un musée qui n'existe pas encore, qui est en construction, tenu secret. Des gens me repèrent, entendent parler de moi et on me demande, je vais même signer des contrats pour garder sous silence ce sur quoi je vais travailler. Et on me demande de mettre en valeur les collections océaniennes avec les contes et de concevoir un parcours conté. Donc je vais faire le jour d'inauguration, le 20 juin 2006, et ça a un tel succès que je me retrouve à travailler sur toutes les expositions océaniennes pendant 13 ans, toutes les expositions qu'il y a eu sur l'Océanie. J'en étudiais les peuplades, mais tout le côté ethnologique, j'allais à la rencontre des gens, j'allais à la rencontre des anthropologues, des archéologues, pour comprendre ce que voulaient dire les histoires et pouvoir les redonner de manière ludique et en même temps profonde. C'est ce que j'ai dit souvent, j'ai fait un travail ethno-artistique, c'est-à-dire emmener l'ethnologie, mais je ne vais rien vous expliquer, je vais juste vous raconter. Et en fait, on fait passer entre le corps, les chants et les légendes. Il y avait ce dialogue avec les objets derrière moi. Et en fait, les enfants et les adultes comprenaient énormément de choses. Voilà quel a été mon travail toutes ces années, un merveilleux travail dans ce musée.
Revenons sur le spectacle de cet après-midi, la légende du cocotier.
Oui.
Quel est le pitch?
Eh bien, c'est une jeune fille, Hina, d'une grande beauté. Et je vais vous la mettre un peu en musique. Oui. Elle est d'une grande beauté et son père veut la marier. Mais il décide de la marier à un prince, au prince d'un lac. Mais ce prince, elle ne le connaît pas. Et quand elle le voit, horreur ! C'est un monstre, c'est une anguille. Alors elle s'enfuit et elle va traverser l'océan, elle va aller sur une autre île. Et puis un demi-dieu, Maui, très connu maintenant, hein, puisqu'il est dans les films de Disney. Maui va l'aider et va tuer l'anguille qui la poursuit. Sauf qu'il va y avoir comme une prédiction. Elle doit protéger cette tête d'anguille, sauf qu'une maladresse va faire que la tête va toucher la terre et cette tête d'anguille va se transformer en cocotier. Voilà, et de monstre qu'il était, parce que c'est vrai qu'il n'était pas très beau, hein, mais bon, les goûts, les couleurs, mais de monstre qu'il était, eh bien, en fait, il va devenir un arbre protecteur. Ça parle de cette symbiose qu'il y a entre les Polynésiens et leur nature, et de cette protection, et comment les arbres sont des protecteurs et sont importants, et comment il y a cette notion, effectivement, de protéger la nature, protéger la forêt, faire partie de la nature. Et donc, voilà ce que raconte cette histoire.
D'accord. Cette histoire, il y a des chants à l'intérieur, il y a de la danse énormément et aussi de l'interaction avec le public.
Oui, énormément, parce que effectivement, si je donne avec le poids avec lequel j'ai reçu les légendes, nous, on n'est pas habitués. Je veux dire, pourquoi on ferait ce côté très solennel? On n'est pas polynésien. Et effectivement, il y a du jeu pour permettre aux gens de lâcher, de se raccrocher, et puis pour prendre un peu de distance avec l'histoire. Et du coup, les gens comprennent qu'il y a un côté sacré, un côté important, mais il y a aussi un côté où on s'amuse beaucoup. Et ça, c'est très, très polynésien.
Vous écoutez actuellement l'interview de Céline Ripoll. Elle a conté la légende du cocotier et autres contes de Tahiti dans la commune de Saint-Sauveur le dimanche 5 novembre dernier. Un jour, vous êtes devenue autrice également.
Oui.
L'histoire dit que c'est une éditrice qui s'appelle Caroline Drouat qui vous avait demandé d'écrire un conte. Et au départ, vous aviez refusé. Parce que vous avez comme argument, comme quoi ça reste de la tradition orale.
Ah oui, oh là là.
Et je ne veux pas passer à l'écrit. Puis finalement, vous avez changé d'avis.
Ouais, et puis maintenant j'en suis à plus de 150 légendes publiées en un peu plus de 10 ans. Effectivement, oui, je me rappelle, elle est venue me voir au musée du Quai Branly. Elle me dit, oh, on n'a rien sur le Pacifique, vous voudriez faire quelque chose? Et j'étais outrée, je disais, mais non, c'est de la tradition orale, tout ça. Et puis j'appelle mes amis aux marquises, je dis, tu te rends compte, maintenant les gens ils me demandent d'écrire. Et les marquisiens me disent, mais Céline, écris. C'est toi qui fais le lien entre nous et les autres, les gens de chez toi, écris. Et du coup j'ai accepté. Et puis ben, maintenant je me retrouve effectivement avec plus d'une vingtaine d'ouvrages, 6 recueils au seuil, des albums jeunesse. Voilà, j'ai vraiment l'impression de accomplir, oui, une mission en tous les cas. Un pont, un lien, et puis les gens après des spectacles sont ravis parce que c'est vraiment pas facile, c'est pas du tout notre culture, on en a des clichés, on en a des gros clichés, c'est pas du tout notre culture, et en fait, avoir un livre d'un conte haïtien, c'est pas évident. Sauf que quand vous m'avez vu et que vous avez vu l'énergie, la joie, comme vous dites, la danse, etc., ah, je comprends comment lire. Et les gens se mettent à lire et à jouer avec les histoires. C'est ce grand jeu de malice qu'il y a à avoir avec les histoires, oui.
Exactement. Et comment vous expliquez que c'est si méconnu en Europe ou en France, les contes tahitiens? Il y a la distance, certes, mais...
Eh bien, le répertoire que j'ai levé, hein, entre contes aborigènes, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Maori, Polynésie, ce répertoire... pour beaucoup, n'était pas traduit. Mmh. Je vais chercher des sources énormément dans des livres d'anthropologie. En anglais, en espagnol, en français aussi, bien sûr. Il faut les comprendre. C'est une autre vision du monde. Moi, j'ai vécu avec eux pendant très, très longtemps. C'est une autre approche du monde. Hein, ce n'est pas la Terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la Terre. Donc, c'est voir le monde autrement. Et je me suis attelée à traduire cette vision du monde. Comme je fais partie des deux, eh bien, j'ai l'impression, en tous les cas, je me trompe peut-être un peu, mais j'ai l'impression de pouvoir offrir aux gens de là où j'ai grandi, hein, de cette France, de cette métropole, j'ai l'impression de leur traduire et de pouvoir leur dire « voilà ». Et effectivement, la Polynésie française est connue par son cliché de la Vahine, maintenant un peu de l'homme guerrier, maintenant on a les Maoris avec les Néo-Zélandais, les All Blacks et le rugby, etc. Mais quand même, on s'intéresse, on dit « mais tiens, c'est quand ils sont solides, qui sont ces gens-là » Et ces gens-là, eh bien, on peut les découvrir à travers les contes.
Vous êtes également, Céline, illustratrice ?
Oui, j'ai illustré notamment un livre sur les plantes, qui est un livre qui est publié chez Moi Éditions sur l'île de Pâques. C'est vrai qu'avant de raconter des histoires, j'ai fait des études de design et de dessin. Et c'est une manière pour moi aussi d'exprimer, avec ce jeu de matière, les jeux des couleurs, effectivement, d'autres choses.
Transition, vous parlez de l'île de Pâques à l'instant, et justement, le conte s'intitule « À l'ombre des Moailles ».
Oui, alors c'est un spectacle que j'ai créé à la suite de mon tout premier voyage, c'était en 2007, donc j'ai dû créer ce spectacle en 2008 ou 2009, qui racontait des légendes, il reste très très peu de légendes sur l'île de Pâques. C'est une manière pour moi de faire découvrir cette île. Au-delà des grands mystères, il y a une tradition orale. J'ai vécu 10 ans sur cette île. J'en ai appris une partie de la langue, les chants. Et c'est une manière, effectivement, d'aborder cette île qui est entourée de fantasmes. Les Français adorent cette île. Il y a vraiment une grande sympathie entre les gens de l'île de Pâques et les Français.
Et ce conte, vous le jouerez donc à la Salle des Glaces, c'est au hameau de Bettencourt, et ça sera le vendredi 10 novembre.
Exactement.
Est-il vrai que l'île de Pâques, c'est l'île la plus éloignée ?
C'est l'île la plus isolée au monde, oui. On a la première île habitée, c'est 3800 km, c'est Tahiti. Et puis après, de l'autre côté Chili, pareil, 4000 km. Donc on est très, très isolé. Et par exemple, pendant la pandémie... on n'avait plus d'avion, donc on avait juste un seul avion de ravitaillement par semaine. On s'est retrouvés entre nous, enfermés, confinés, mais pas dans nos appartements, sur notre île.
Merci pour ce moment, et puis bon moment dans l'Oise pour ce festival des contes d'automne.
Merci beaucoup, parce qu'effectivement, je vis de très très belles rencontres, une vraie chaleur humaine. Et alors là, la séance d'aujourd'hui a vraiment été extraordinaire. L'équipe de la bibliothèque est une équipe bénévole. Le maire qui était là, une grande sympathie et une salle pleine, ça fait chaud au cœur. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour vivre des belles émotions. En venant jusqu'ici, on vit aussi des très très bons moments. Merci à vous.
Merci à vous. Et merci à votre costumière. Oui. Et également aux anciens que vous remerciez tout le temps, qui ont bravé des océans, surmonté des tempêtes pour raconter ces belles légendes.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que les choses, elles arrivent toutes seules, mais en fait, elles arrivent parce que des gens les ont transmises, les gens ont parlé, les gens ont dit, et c'est important. Il faut parler, il faut raconter, et nos anciens, c'est pas parce qu'ils sont plus là ou qu'on a oublié même leur nom qu'on doit les oublier. Hein. On est descendants de sacrés personnages. Oui, un vrai devoir de mémoire, c'est vrai.
Merci à vous d'être venus si nombreux pour porter ces histoires comme l'océan a porté les anciens pour qu'ils aillent bien en île. Et bien voilà, vous portez aussi ces histoires et vous m'avez porté. Alors, Maoru Tekorua, merci beaucoup.
Voilà, c'était Yann Barré pour RVM. J'étais en ce dimanche 5 novembre dans la salle Soupissot, dans la commune de Saint-Sauveur, près de Compiègne dans l'Oise. Céline Ripoll contait la légende du cocotier et les autres contes de Tahiti.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.